Bienvenue sur Atypique, le podcast où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont bravé les tempêtes pour devenir un accompagnant. Des reconversions audacieuses aux défis surmontés, Atypique est fait pour inspirer, apprendre et évoluer ensemble. Dans cet épisode 7 d'Atypique, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Chloé Elsener, une ancienne infirmière devenue hypnothérapeute spécialisée dans les questions de fertilité. Chloé insiste sur l'importance de l'éthique dans la pratique, mais aussi dans la communication et le marketing, en évitant les fausses promesses et en gérant les complexités émotionnelles des parcours de ses clients. Elle est spécialisée aussi sur Instagram et depuis l'enregistrement du podcast, elle a lancé son programme pour aider les autres à se faire connaître grâce à Instagram avec une communication alignée et loin des clichés d'un marketing abusif. Nous abordons les sujets autour du couple et l'impact des enjeux de fertilité, de devenir indépendante, maman et entrepreneuse et comment réussir à naviguer dans les enjeux émotionnels que ça crée tout en maintenant une vie personnelle et de couple chouette et alignée. Découvrez le parcours atypique de Chloé, qui est plus qu'une collègue et une connaissance pour moi, c'est une source d'inspiration, d'échange et de remise en question. Femme extra qui m'a toujours apporté beaucoup lors de nos échanges et je suis sûr qu'elle vous inspirera vous aussi. Salut Chloé, ça va ?
Salut Laurent, ça va, ouais.
Ça me fait plaisir de t'avoir. Alors, on se connaît assez bien. Le premier podcast, c'est souvent des gens que je connais assez bien. L'idée après, ouais. C'est de recevoir aussi des gens que je connais pas du tout pour que ce soit aussi un peu différent. Tu te présentes rapidement, dis d'où tu viens, où tu vas, ce que tu fais.
Moi je m'appelle Chloé Elsener, je suis une ancienne infirmière, hypnothérapeute depuis 7 ans, je me suis spécialisée en fertilité, et ensuite j'ai créé ma formation pour les pros de l'accompagnement qui veulent aussi se spécialiser en fertilité, sur les problématiques de fertilité, et j'ai une deuxième casquette qui commence à naître d'accompagnement sur la communication sur Instagram en particulier, pour les pros de l'accompagnement.
Qui est plutôt ton truc que tu fais assez bien. Donc pour ceux qui écoutent que ça intéresse, je mettrai comme d'habitude les liens vers ce que fait Chloé, son Insta, etc. Une question que j'aime bien, que je pose pas toujours, mais celle-là je l'aime bien, c'est quoi le plus beau compliment que t'aies reçu ?
Pro ou perso ?
Comme tu veux. Oh.
Je pense que professionnellement, c'est quand j'ai commencé à faire de la fertilité, accompagner les problématiques de fertilité, j'avais quelques clientes au départ parmi le reste des problématiques que j'accompagnais à côté. Et un jour, je rentre dans mon cabinet et j'avais reçu une lettre d'une cliente que j'avais eue pendant plusieurs séances, une dizaine, douzaine de séances. Qui essaie d'avoir un bébé et elle m'a écrit une lettre c'était particulier, c'était dans une super belle enveloppe avec écrite à la main, enfin c'était waouh, parce qu'au des messages on peut en recevoir, tu vois, mais là c'était une lettre manuscrite, elle avait pris le temps de me l'envoyer, où elle me disait que ça m'aimait encore, que mon accompagnement l'avait, enfin qu'elle attendait un bébé, voilà, ça c'était pour m'annoncer ça, mais aussi que mon accompagnement l'avait vraiment aidé, comment ça l'avait soutenu dans son parcours, dans ses difficultés. Et c'était dans mes premières clients de fertilité, et je pense que ça a été ça m'a beaucoup touchée déjà, beaucoup émue, et ça a été le démarrage de cette spécialité-là, en fait, ça m'a donné envie de continuer, d'en faire plus, et puis à un moment donné, de faire que ça aussi, d'apprendre que les problématiques de fertilité.
Ouais, voilà. Ouais, donc c'était la question suivante, c'était le switch vers la fertilité. Bon, déjà, on reviendra sur ça un petit peu après. Moi, j'ai quelques bébés à mon actif quand je pratiquais, et c'est vrai que bon, c'est pas les mêmes remerciements. Il y a des enjeux émotionnels.
Après, c'est pas moi. C'est ce que j'ai. Les personnes qui me connaissent, c'est pas ce que j'attends moi. En fait, depuis le début, c'est pas les bébés que j'attends. Enfin, ça serait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je m'en fiche des naissances. Moi, ce qui compte, c'était plutôt l'aspect. Le soutien que ça lui a apporté, ce que ça a changé dans son parcours, qui sont des parcours émotionnellement très compliqués. C'est plutôt parce que j'aurais pu ne jamais savoir qu'elle allait avoir un bébé, enfin, puisque ça s'est séparé pendant mon accompagnement. Donc moi, c'est plutôt ça qui a compté pour moi, et c'est là aussi ce qui m'a aidé à continuer, ce qui a aussi créé un peu toute l'éthique que je mets autour de l'accompagnement de la fertilité et des promesses qu'on peut faire en accompagnement sur ces problématiques-là. Et c'était un gros point de départ. Il y en a eu d'autres, mais là, ça a été un gros point de départ et un gros compliment, pour le coup, un compliment, quoi.
Ouais, c'est important que tu précises, parce que moi, je parlais plus de ça dans l'idée du remerciement. Forcément, quand la personne a réussi à avoir un bébé, il y a un impact. Moi, j'ai 4 enfants, tu vois, donc ça vient toucher aussi des valeurs. Mais tu parles souvent de ça, on en a discuté pas mal, de cette lutte un peu contre les fausses promesses. Pas fausses, forcément, mais dans la fertilité, cette idée de vous aider à avoir un bébé, etc. Alors que toi, t'as un angle... Bien sûr, ça fait partie aussi de la démarche des gens, j'imagine, mais c'est plus dans l'accompagnement, parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience des difficultés, des problématiques de la fertilité. Alors, il y en a plein, je sais qu'il y a Stéphanie aussi qui est plus spécialisée dans le deuil, ce genre de choses. Mais
psychotrauma, ouais.
Nous en dire un peu plus sur ça, justement.
L'accompagnement des problématiques de fertilité.
Ouais, sur ce à quoi tu crois, toi, ce que tu défends.
Bah, en fait... Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de clients d'un coup sur ce sujet-là. Il y a eu un événement, une proposition qui a fait que d'un coup, mon cabinet s'est rempli de femmes, surtout un peu d'hommes, mais surtout des femmes qui rencontraient ces bébés-là. Donc, je connaissais le sujet, je le maîtrisais un minimum. Et tout d'un coup, j'ai eu des personnes dans mon cabinet qui venaient me dire « Écoute, je viens de voir parce que je veux un bébé. » Enfin, genre un peu genre la... L'hypnose, ça venait comme la baguette magique parce que, enfin, il y a tellement une vulnérabilité, elles sont désespérées qu'elles cherchent un peu aussi la solution magique pour avoir ce bébé. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une pression, mais extrême, sur mes épaules. Je m'en souviens encore. C'était, je pense, à cette période-là, d'ailleurs. Il y a 3 ans, peut-être, maintenant. 4 ans. Bref, je sais plus. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas continuer à accompagner les problématiques de fertilité, faire que ça, et avoir dans mon cabinet des femmes qui viennent en me disant, je compte sur toi pour avoir un bébé. Parce que déjà, je peux pas promettre ça, moi. Je sais rien. Je sais même pas si elles en auront un jour. Et moi, j'aime pas les mensonges, et j'essaye d'être le plus transparente possible. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux revoir mon cadre, ma posture? Ce que je promets et ce que je propose pour justement moi ne pas ressentir cette pression très forte en accompagnant que ça et puis aussi avoir dans mon cabinet des gens qui sont satisfaits de mon accompagnement même si au bout des multiples séances il y a pas de bébé quoi. Donc ça a été clair dès le départ que c'était important d'être très clair dans mon cas, de dire, ici, on fait pas des bébés, quoi. L'hypnose, c'est pas fait pour faire des bébés. Y a pas de magie là-dedans. Y a pas d'études non plus. Y en a quelques-unes, mais bon, elles sont tellement spécifiques dans un moment donné de l'accompagnement avec l'hypnose qu'on peut pas s'en servir comme telle, qui prouve que l'hypnose, ça fait tomber les femmes enceintes, quoi. Donc, voilà. Alors, après, on pourrait dire, mais c'est dommage parce que oui, parfois, il y a des trucs un peu magiques qui se passent. Enfin, j'en ai vu, hein. J'en ai accompagné des centaines et des centaines, moi, de couples qui vivent ces problématiques-là. Donc, oui, parfois, il y a des trucs un peu magiques qui se passent. Mais en fait, on n'en sait rien si c'est l'hypnose et notre accompagnement qui a fait qu'elle est tombée, on a enlevé des blocages ou je sais pas quoi. Donc, je pense qu'il y a une question d'être humble là-dessus, mais aussi de se défaire de cette pression-là, qui est très forte. Déjà, quand on est hypnothérapeute, je trouve... Il y a une attente qui est souvent très forte, mais encore plus sur ces sujets qui sont spécifiques là, enfin sensibles. Et
voilà. Là, tu parles de la pression que ça met sur toi, mais il y a aussi une forme de pression. Enfin, il y a un truc pas très honnête et une forme de pression aussi sur les femmes quand on leur, je dis les femmes, mais bon, il y a le couple, on en reparlera peut-être un peu après, mais de cette promesse de créer des attentes irréalistes et qui peuvent être dévastatrices. Si contre ça, je crois que tu luttes pas mal, non?
Oui, ouais, c'était le deuxième point que je me suis arrêtée parce que je me souvenais plus. Mais voilà, deuxième point, c'est aussi moi, ça me rend folle de voir des thérapeutes en général, des accompagnantes qui font ce genre de promesses, de dire si tu viens dans mon cabinet, si je viens faire utiliser tel outil avec moi, tu vas tomber enceinte, quoi. Il y en a beaucoup. Et c'est facile, hein, parce que de toute façon, il y a une telle attente de la part des femmes. Elles sont prêtes à tout. Quand t'attends un bébé, t'es prête à tout. Depuis des années, t'es prête à tout. Enfin, tu dépenses beaucoup d'argent et t'es prête à tout tester pour enfin avoir ce bébé dans les bras. Et du coup, c'est très facile de leur promettre des choses fausses, quoi. Enfin, et moi, ça me met dans une colère... extrême, je trouve ça très injuste d'utiliser ce levier-là, et c'est très subtil, ça peut aller très vite, Et bien sûr que ça attire, bien sûr que ça marche. Et utiliser la vulnérabilité de ces femmes, parce que c'est souvent des femmes, moi ça me rend dingue. Donc c'est vrai que bah dans la formation, par exemple, on passe beaucoup de temps à traiter les sujets d'éthique qui tournent autour de ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on peut promettre, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est mieux de ne pas dire, qu'est-ce qu'on peut montrer aussi, bah sur, comme on parlait d'Instagram, sur Instagram, qu'est-ce qu'on peut partager sur les réseaux, parce que ça devient ta vitrine. Donc si tu mets dans ta vitrine un message d'une femme une femme qui t'envoie un message qui dit bah ah je suis tombée enceinte grâce à toi, parce que ça arrive souvent hein, qu'on dise ça, moi aussi hein, et ben qu'est-ce que ça montre aux autres femmes, comment voilà, c'est tous ces petits leviers là, ces subtilités là qui font que si tu t'as envie de rester dans les clous, si t'as envie d'être éthique et de pas utiliser la vulnérabilité des gens pour remplir ton cabinet, qu'est-ce que tu peux faire et il est mieux de ne pas faire. Voilà.
Ah, c'est vrai que c'est subtil. Après, faut trouver le juste équilibre entre se faire connaître et faire la promo de ce qu'on fait, parce que faut bien se faire connaître. Et c'est comme en dehors de la fertilité. Moi, je dis toujours, c'est le problème du bouche à oreille. Quand t'as eu une séance extraordinaire qui fait partie des 1 ou 2% des séances magiques entre guillemets, et que t'as les gens qui envoient bouche à oreille avec ça, ils attendent la même chose. Ça crée beaucoup plus de problèmes que d'autres. Exactement. Choses, parce que le changement est complexe.
Mais oui.
Donc, comme la fertilité, d'ailleurs, en plus, il y a les enjeux systémiques.
Ça dépend tellement de choses.
Il peut y avoir du transgénérationnel. Enfin, il y a tellement de sujets possibles autour de tout ça que c'est complexe. Mais on reviendra sur ce sujet-là un petit peu après. Qu'est-ce qui t'a fait switcher d'infirmière à l'hypnose, par exemple? Comment t'es passé de, OK, j'arrête infirmière?
En fait, je pense que je suis assez on/off dans ma vie en général, et déjà j'ai été infirmière pendant 4 ans en maison de retraite, donc rien à voir, mais bon, j'accompagnais les fins de vie, les personnes âgées, tout ça. Puis un jour, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, donc je suis passée plutôt dans un service un peu plus commercial avec des avantages. Ça me semblait bien. Je vendais du matériel médical, bref. Et en fait, je m'y reconnaissais pas, quoi. Il y avait un mélange, genre une dissonance entre le fait d'accompagner les gens dans leur problématique de vie, et puis en même temps devoir vendre. Donc là, il y avait vraiment un truc à l'intérieur qui matchait pas. Et ça faisait plusieurs années que ma maman était installée comme hypnothérapeute, et que moi je connaissais bien le sujet. J'avais déjà fait de l'hypnose, enfin voilà. Et puis je sais pas, un jour, vraiment c'est comme ça, un matin je me suis levée, je me suis dit c'est plus possible, je peux plus ce boulot, je ne peux plus, ça ne correspond pas à mes valeurs, je ne peux plus. Et en fait le soir j'étais inscrite à la formation pour dans 4 mois plus tard, quoi. Donc entre temps j'ai demandé ma rupture conventionnelle et voilà.
Mais le fameux putain,
c'était
y en a
un
marre.
Peu d'un coup, quoi. Ouais, exactement.
Ok. Et quelle difficulté t'as rencontré par rapport à ça? Parce que ce que tu dis là, ce que tu disais, c'est à la fois d'aider les gens et en temps vendre. C'est aussi une problématique qu'on rencontre beaucoup, qu'il y a beaucoup d'hypnos, enfin de praticiens de tout genre qui rencontrent. Ouais, c'est aider les gens, mais en même temps se faire connaître. On revient un peu à l'idée des promesses et à cette subtilité-là. Toi, c'est quelle difficulté, quelles choses t'ont aidé à développer ton cabinet, ton activité? Comment tu t'es senti dans tout ça?
Bah du coup c'est vrai que c'est marrant parce que j'avais jamais pensé à ça, mais à ce parallèle là, mais parce qu'aujourd'hui je le fais, j'accompagne des gens et en même temps je vends, que ce soit aujourd'hui la plupart de les accompagnants, enfin les pros, moi je suis plutôt tournée vers les pros, et c'est vrai que, mais du coup je le fais avec à ma manière, avec mes valeurs et en tentant, alors c'est jamais parfait, mais en essayant d'être le plus éthique possible, quoi, en fait, éviter les conflits d'intérêts, et puis proposer et promettre des choses qui sont réalistes, quoi, en fait. Je pense que je peux peut-être casser l'ambiance parfois, hein, dans ce que je propose et dans ce que je partage, mais j'essaie d'être le plus réaliste possible, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'aujourd'hui les gens, surtout dans problématiques avec une forte urgence et des enjeux émotionnels très forts, les gens veulent du vite, du rapide, de l'immédiat, du facile entre guillemets, au sens et des résultats. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire sa place à cet endroit-là. Sur un autre sujet, moi je suis plus dans la connaissance de soi, prendre le temps d'évoluer, de se connaître, le temps. C'est des mois avant d'heure que vient changer en une heure, tu vois. Donc forcément, c'est pas évident. Et au début de ta pratique, comment t'as développé ton cabinet? Comment tu t'es sentie dans ce métier-là? De devenir indépendante, tu vois, tous les enjeux de ce truc-là?
En fait, moi, j'ai l'impression quand même d'avoir eu de la chance aussi j'ai quand même beaucoup bossé, mais j'ai aussi eu des choses, des facteurs chance, hein. Peut-être que ça s'appelle pas comme ça, j'en sais rien, mais des facteurs facilitants. J'avais déjà un cabinet, dans le cabinet de ma maman, j'avais pas de loyer à payer, enfin, j'avais déjà quelque chose qui, j'avais pas d'enfant, j'étais quand même déjà avec mon conjoint qui travaillait à côté, enfin, j'avais quand même une certaine sécurité financière qui était là. Bon, j'avais le chômage de la rupture conventionnelle, ça aussi c'était important. Enfin voilà. Et puis je sais aussi que le fait d'avoir été infirmière, ça m'a servi dans la relation de se retrouver seule avec une autre personne dans la même pièce. Je me souviens qu'en formation, c'était un sujet pour les jeunes parce que j'avais quand même 25 ans, j'étais jeune, enfin 26 ans peut-être. Et c'était un peu un sujet de se retrouver seule face à face avec quelqu'un. Enfin, si tu veux, pour moi, c'était pas un problème, quoi. Enfin, j'avais tenu la main des gens, de personnes qui étaient en train de mourir. Enfin, si tu veux, donc me trouver face avec quelqu'un qui avait des fortes problématiques, des fortes émotions, c'est pas quelque chose de compliqué, de difficile. Ça me demandait pas un effort et ça me traumatisait pas. Et puis après, il y a eu le fait d'avoir des clients. Alors, parfois, on me dit, ah, mais t'as eu de la chance parce que ta maman, elle t'a fait du bouche, enfin, ça t'a rapporté clients, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas vers là que j'ai eu mes premiers clients. C'était plutôt j'ai tout de suite essayé de trouver des solutions de communication, comment je pouvais sortir de mon cabinet pour avoir mes premiers clients. J'ai rapidement fait je me suis rapidement lancée en faisant des ateliers d'hypnose de groupe, en communiquant sur les réseaux. J'adore les réseaux, voilà. Donc je communiquais beaucoup sur Facebook, sur Instagram pas trop encore, même si j'en avais un, mais beaucoup sur Facebook, dans ma ville, aller rencontrer dans tous les groupes de rencontres qui se proposaient dans ma ville, y aller, enfin créer du lien localement, on va dire, et sur les réseaux, et ça a vite fonctionné. J'ai vite pris une clientèle, alors vite, pas aussi vite que certains, mais à un rythme quand même cool, quoi.
Ok.
Et puis le fait d'apprendre ce que c'était la communication, le marketing, voilà quoi.
Et le fait d'être jeune, c'est quelque chose qui a posé problème, qui a été aidant, parce que c'est pas toujours facile d'accompagner des gens en thérapie, en accompagnement, quand on a 20, 25 ans.
J'étais jeune, mais j'étais infirmière, quoi. Enfin, si tu veux, j'ai été jeune, mais moi, pendant mes études d'infirmière, donc depuis que j'avais 18 ans, je m'occupais de personnes vulnérables, en grande difficulté, soit physiques ou malades ou émotionnelles. Et si tu veux, enfin, ça m'a appris la vie, hein, l'école d'infirmière, les stages, le travail que j'ai fait comme infirmière pendant plus de 4 ans. Enfin, ça m'a appris la vie. J'étais jeune, mais en même temps, je pense que j'avais une maturité face à l'autre et à la souffrance de l'autre qui m'a aidée. Je me suis pas sentie en difficulté parce que j'avais des clientes qui étaient plus âgées que moi, par exemple. Enfin, c'était pas un problème, voilà.
Que le fait d'être jeune, vers ça m'a pas trop plu, le public qui peut se dire, il y a pas mal de gens qui vont dire, moi j'ai pas envie de me faire accompagner, j'ai 40 ans, j'ai pas envie de me faire accompagner par quelqu'un qui a 25 ans, tu vois. Donc c'est plus pas forcément toi, mais en général c'est un sujet qui revient beaucoup chez les plus jeunes praticiens.
Moi, je me suis pas posé la question, j'avoue, et j'ai beaucoup eu de femmes de 40, 50 ans dans mon cabinet dès le départ. Je sais pas pourquoi. Et je me suis pas posé la question. En tout cas, pas de mémoire. C'est pas un problème qui m'a pas posé problème. Et parce que je pense que j'étais déjà en relation avant avec du public qui était plus âgé que moi. Mmh. Quand t'as 25 ans, que tu prends en charge une petite dame de 90 ans, t'apprends aussi à être en relation avec l'autre.
À la gestion de la souffrance, à la relation, à la communication. Mais C'est un sujet qui m'intéresserait de savoir pour qu'est-ce qui fait qu'il y a chez toi qui peut avoir attiré des femmes de cet âge-là, alors que c'est souvent une problématique. C'est difficile de répondre à la question, je pense pas qu'on puisse y répondre, mais. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce que tu dégages, tu vois? C'est qui? Parce que je pense que je pose cette question-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se faire connaître, mais qui vont pas dans l'énergie qu'ils dégagent, qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es allé vers la périnatalité, mais je pense que cette énergie-là du travail avec les femmes, machin, etc., la souffrance, les vraies difficultés, tu l'as depuis longtemps, peut-être même avant d'avoir fait des études d'infirmière. Pas pour rien que t'as fait des études d'infirmière, j'imagine. Et c'est justement c'est m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin, tu vois, que quand les questions disent, je sais pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, mais justement, comment t'as, qu'est-ce qui peut y donc, c'est une conversation, hein, j'ai pas de réponse non plus, c'est plus, comment reconnaître cette énergie-là, le fait que toi, tu t'es pas posé de questions, et c'est peut-être ça la clé, c'est d'aller à les endroits où il y a pas de questions, parce que c'est ce qu'on est, ce qu'on sent, ce qui, toi, tu comprends, là où j'essaye d'aller sans vraiment trop savoir où je vais.
Bon, ouais, je réfléchis en même temps que tu me poses la question. Je sais pas. Mais même dans mes amitiés, tu vois, quand j'étais infirmière, où je me suis toujours bien entendue avec des femmes qui étaient plus âgées que moi. J'ai des amies de mon âge, mais j'en ai aussi qui ont l'âge de ma mère, quoi. Tu vois, je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est il n'y a pas de question d'âge,
Non, mais ta réponse est intéressante. Justement, ce que je dis souvent dans le génie au quotidien, là, trouver son énergie en explorant sa vie, ses amitiés, ses relations, ce qu'on fait, ses activités, dans ta réponse, il y a une réponse. Et j'ai des amis qui sont plus âgés que moi, il n'y a pas de question, je suis à l'aise avec ce type de public, avec les femmes, etc. T'as un gros penchant sur le féminisme aussi, et donc tout ça, ça joue, tu vois, et je pense que c'est plus pour les gens qui écoutent, tu vois, là, c'est plus d'aller explorer, justement, en soi, ce qu'on fait déjà bien, ce qui nous plaît déjà, ce qui est déjà facile, entre guillemets, pour trouver sa marque.
Ouais, je pense qu'aussi, il y a un truc qui me vient, alors je sais pas si c'est lié, mais je me suis toujours sentie en décalage avec... Même, je me souviens, quand j'étais, genre, en primaire... Avec les gens de mon âge, me sentais en décalage. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas quoi te dire là maintenant, ce qui faisait ça, je me sentais pas forcément à ma place avec des gens qui avaient mon âge en primaire. Aujourd'hui, des gens de mon âge, c'est pas un problème parce que j'ai trouvé des amis qui me correspondent et voilà. Mais quand j'étais plus jeune, c'était un problème. Socialement, j'écoutais pas les mêmes musiques que mes copines, j'avais pas les mêmes sens d'intérêt, j'en avais pas trop d'ailleurs, du coup je trouvais pas des sens d'intérêt qui m'allaient parce que voilà les trucs, je faisais un peu semblant parfois et du coup je pense que il y a toujours eu un décalage, après je vais pas mettre des mots sur les trucs que j'en sais rien, mais et donc je pense que je m'intéressais à des choses que les enfants de mon âge s'intéressaient pas forcément, je pense, sans m'en rendre vraiment compte. Et après, en grandissant, ça a continué, quoi. Mmh. À l'école d'infirmière, et quand j'étais infirmière, ce qui m'intéressait, c'était pas la technique, mais c'était les gens, quoi. Les gens, ouais. Leurs histoires. C'est pour ça que j'aimais bien la gériatrie. Parce que les personnes âgées, elles sont pleines d'histoires. Enfin, c'est fou. Enfin, elles ont vécu tout ce que moi je vais vivre dans quelques années, et c'était incroyable d'être en lien avec des personnes qui avaient cette sagesse et cette connaissance de la vie, de discuter avec eux. Je perdais du temps. J'étais toujours en retard sur mes tours d'infirmière parce que je perdais du temps avec les gens, quoi. D'être en lien avec eux, quoi. C'est ça qui m'intéressait.
Qu'on retrouve dans ta philosophie et de la périnaté, pas de promesses, on prend le temps, enfin, tu vois, c'est pour ça que il y a des liens dans toute notre histoire de vie, il y a des clés qui se cachent dans qui on est, où on va, et des fois les signes, entre guillemets, des fois les gens ils servent des signes maintenant, alors qu'ils sont souvent là depuis très très longtemps, peut-être parce que t'es une vieille âme, ouais. Tu vois, donc tu as cette sagesse.
On me l'a déjà dit. Mais non, moi je rentre pas là-dedans non plus, parce que ça m'intéresse pas trop de mettre des mots sur le truc. Bon, bref. Mais ouais.
T'as peur, c'est tout. Non, c'est vrai que mettre des mots sur des trucs, ça enlève des fois du sens à l'émotionnel et à ce qu'on peut ressentir. Mais bon, faut ou bien ouais, pouvoir mettre ça. Des mots des fois sur des choses. Je vais revenir sur ce qu'on évoquait au début, plus sur la périnatalité, l'accompagnement des femmes. On parle du couple, parce que j'aborde le sujet parce que je sais que c'est un sujet sur lequel tu t'es pas mal questionné, sur lequel tu as beaucoup travaillé, et donc comment tu gères ou comment t'as géré ou quelles difficultés tu rencontres quand tu dois aussi gérer la place de l'homme, toi, avec du mari, du conjoint. Je pense que c'est un sujet qui est pas simple, déjà parce que probablement que les hommes viennent moins que les femmes. L'enjeu du couple, en fait, dans la périnatalité, comment tu t'en penses que...
C'est un vrai sujet. Je pensais que t'avais... J'avais pas compris la question au début, c'est marrant. J'avais compris dans un sens, mais je crois que qu'au début je me suis concentrée sur les femmes parce que c'est elles qui venaient et puis le besoin était chez elles et tout. Mais après je me suis dit ça peut être intéressant aussi de prendre le système dans son intégralité. Donc j'ai aussi proposé des séances de couple. Mais une séance, parce que je suis pas thérapeute de couple, une ou deux séances. Et puis après, j'ai eu des hommes, plus d'hommes, du coup.
Ouais.
Et en fait, c'est très intéressant dans le sens où... moi, j'avais... Honnêtement, au début, j'avais un peu un regard du truc du genre très, très... très que j'ai pu aujourd'hui, genre... Mais les mecs, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils sont pas là, ils viennent pas. Quand c'est eux qui ont le problème, c'est la femme que j'ai en séance. Enfin, c'est injuste, ça me colère, machin, tout ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, faut peut-être leur tendre la main et aussi leur faire de la place dans ces accompagnements-là. Enfin, si on leur propose des choses qui sont adaptées à là où ils en sont, au moment où ils en sont, qui est pas forcément au même endroit que leur femme, ça peut peut-être changer la donne, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé, ouais. C'est un peu ce qui s'est passé et j'adore faire des séances à deux, tu vois. Alors je continue toujours à avoir plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même cet élément là qui compte, quoi.
C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est un homme de trouver sa place. On en avait parlé un petit peu à l'époque de trouver sa place dans le... pas que dans les difficultés périnatales, dans aussi les naissances. Moi, j'ai 4 enfants. Je sais que je suis gauche, je sais pas quoi faire. Il faut être là, faut pas être là. J'ai un souvenir presque traumatisant de la naissance de la deuxième où j'ai failli perdre ma femme et le bébé. En même temps, il y a 15 personnes qui sont arrivées dans la salle et c'est comme dans les films, cette sensation d'être seul. Tout devient noir et blanc, tout disparaît autour et t'es seul dans la lumière, un peu comme dans les dessins animés, tu vois. Enfin, dans la lumière, dans ce truc, et ce sentiment d'être complètement inutile, d'être impuissant, de servir à rien, c'est un truc que j'ai dû travailler pas mal, parce que c'est... Après, tout s'est bien passé, mais ce truc d'impuissance masculine qui vient toucher le côté aussi un peu chevalier blanc, je dois être là, aider ma femme, apporter des solutions, machin, c'était un vrai problème, et qui est souvent un peu balayé du revers de la main, en mode... parce que les problématiques des femmes sont aussi probablement, je dis pas plus importantes, parce que c'est pas les mêmes enjeux. Moi, j'ai pris 5 kilos par grossesse, par exemple. Alors, j'imagine que dans les problématiques de pas réussir à avoir des enfants, etc., ça doit jouer beaucoup. Ouais, et je trouvais ça chouette que tu sois intéressé.
C'est l'impuissance, quoi.
Ouais, c'est vraiment un truc. C'est elle est aussi chez la femme, évidemment, mais c'est... Je pense que intégrer le couple, justement, probablement des paramètres qui doivent aider aussi à mieux gérer la situation. Et donc, pour dériver vers ça, justement, plus toi, justement, dans ta vie de... Quand t'as commencé, t'avais pas d'enfant. C'est pas évident de changer de métier, devenir indépendant dans un couple. Il y a des notions d'argent, de place, de rapport en couple. Après, il y a les enfants, il y a la gestion des enfants. Comment t'as vécu ça? Comment t'as géré les situations, les difficultés, les choses que vous avez pu travailler dans votre couple? Enfin, si t'as envie d'en parler, évidemment, bien sûr.
Il y a tellement de choses sur ce sujet-là. Déjà, moi, enfin, c'est un peu cliché, mais mon mari aujourd'hui, mon mec, c'est mon pilier, quoi. Enfin, tu vois, là, je viens de faire un mois de réel. Ça peut sembler très très con, hein, comme truc, mais je viens de faire un mois de réel, un réel par jour pendant un mois. C'était genre hyper intense, plus le lancement de ma session de formation. Mais genre, s'il était pas là, je faisais rien, quoi. Parce que il était là émotionnellement pour me soutenir dans la vie de tous les jours, les tâches à la maison, le partage total, même parfois, ben moi quand j'ai plus de travail, c'est lui qui gère le plus. Pour les enfants aussi. Pourtant, il a un métier qui est prenant parce qu'il est kiné aussi, donc il faut qu'il bosse, faut qu'il fasse ses heures. Donc voilà. Donc déjà, aujourd'hui, c'est devenu mon pilier, mais pour qu'on ait cette relation-là, on forme une équipe. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a réussi, on a encore du boulot, à être dans l'idée qu'on est une équipe. C'est-à-dire que on est là pour l'autre. On a conscience aussi qu'on a besoin de chacun de nos moments de notre côté à deux, et en même temps on est là pour se soutenir l'un et l'autre, et que si on n'est pas là-dedans dans cette idée d'équipe, ben en fait on n'avance pas, notre famille elle avance pas, et ça peut pas le faire. Mais on vient de loin là-dessus. On a traversé déjà, bah quand je l'ai rencontré, c'est à ce moment-là que j'ai switché, que j'ai changé de métier. J'ai déjà changé de Je suis passée d'infirmière à infirmière commerciale, on va dire. Donc déjà une fois, et 6 mois après, je quittais tout et je devenais hypno, quoi. Et après, je pense que lui, il aime bien la stabilité. Et pourtant, bon, il signait avec moi, c'est qu'il y avait une ça lui apporte d'autres choses. Mais il a toujours été, il m'a toujours laissé cet espace de liberté qui fait que, bah moi, je peux naviguer là-dedans, et en même temps, je me sens en sécurité parce que il protège aussi cet espace de liberté, quoi. On va dire en quelque sorte. Je sais pas si c'est visible. Et puis après, ben, il y a le truc très classique, hein. On a traversé des crises, quoi. Si tu veux, quand j'ai lancé l'hypnose et fertilité, j'en ai rarement parlé de cette période de ma vie, mais il est ok pour que j'en parle, sans rentrer dans les détails. Mais quand j'ai lancé hypnose et fertilité, donc ma première session de formation, j'étais en train de traverser la pire période de toute ma vie, je pense, qui était liée à des problématiques de couple, justement. Enfin, on venait d'avoir notre fille, elle avait 18 mois, quoi, voilà. Et en fait, on a failli basculer, quoi. On a failli se séparer, pour des raisons, voilà. Et je pense que là, on a fait un choix. On s'est dit, bah, soit on arrête là, soit on continue, mais on continue en conscience, en essayant de faire mieux et en prenant soin de l'un et l'autre, et justement en introduisant cette idée d'équipe, quoi. Donc on a fait un gros travail sur nous, on a été voir une thérapeute de couple, là, et moi en même temps j'étais en train de lancer ma formation en même temps de tout ça, enfin, et j'en ai fait un truc très chouette. Enfin voilà, ouais, il y a plein de trucs chouettes qui sont passés, mais on a traversé des périodes compliquées qui sont dues, bah, à la vie, et pas avoir des enfants, tout ça. Et aujourd'hui, ben, je pense que on a tous les deux conscience que c'est important de, ouais, que l'autre puisse s'épanouir dans ses besoins, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très intelligent ce que je dis ou si c'est très clair, mais, enfin, aujourd'hui, on est tous les deux indépendants, mais moi un peu plus que lui, dans le sens où lui, il est kiné, donc il a des rendez-vous réguliers, enfin, il a quelque chose de régulier qui tourne. Moi, c'est un peu plus instable. Mais si je peux faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est aussi grâce à sa stabilité à lui, j'en ai conscience, donc j'en prends soin aussi, quoi. Mm-hmm. Je sais pas comment, si c'est clair, quoi.
Mais... Ouais. Et comment t'as réussi à gérer, bah, le lancement de ta formation, c'est où t'as trouvé la force déjà de décider de conserver le couple et de le reconstruire tout en lançant une formation, en plus dans quelque chose de nouveau, parce que il y a une énorme différence entre avoir un cabinet et recevoir des clients et devenir formatrice, lancer son marketing, se faire connaître, tu vois. Qu'est-ce qui t'a tenu, qu'est-ce qui t'a, elle est où cette force d'appuyer ça?
Donc, bah, justement, peut-être c'est, que je tu pense sais que pas, c'est grâce, hein, mais... à ça. Je pense que si c'était tellement sombre à ce moment-là, ma vie était tellement sombre, enfin c'est la réalité, c'était tellement dur. Ça fait 2 ans, 3 ans et je commence juste à m'en remettre vraiment, quoi. Donc de cette période-là, et d'accepter que ça soit passé et que voilà, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, enfin ça a été compliqué. Mais et du coup justement, enfin moi, hypnose et fertilité, ça a été la lumière, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à ça que je me suis raccrochée pour survivre. Les mots sont forts, mais parce que ce que j'ai vécu à ce moment-là était très fort. Et c'est à ça que je me suis raccrochée pour survivre. Si j'avais pas eu ce truc fertile qui poussait, que je pouvais arroser, que j'entretenais, que je construisais cette créativité qui se mettait à ça, bah à côté, je me perdais, quoi. Enfin, C'est ça qui m'a fait tenir justement. Donc forcément, je l'ai entretenu et forcément, ça a fait un truc chouette parce que j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Enfin, dans la reconstruction de mon couple aussi, mais voilà quoi.
On comprend ce que tu veux dire, je pense. Mais et c'est, tu penses que ce que vous avez traversé dans le couple, c'est quelque chose qui t'aide aujourd'hui dans ta formation, dans le regard justement sur la systémie, sur le couple, sur les difficultés de la périnatalité, parce que il y a le pré-naissance, puis il y a le post-naissance, il y a toutes ces gestions-là. C'est des sujets que tu abordes, avec lesquels tu travailles. Est-ce que cette expérience
oui. Oui, je pense que ça compte dans le sens où. Ok, il y a cette la place de la femme. Enfin, tu connais mon avis sur le sujet. Enfin, voilà, c'est très important. J'ai des grosses, les sujets du féminisme et tout, ça m'interpelle aussi. Mais je pense que je me suis rendu compte que c'était important aussi de pas oublier que dans ce système il y avait deux personnes. Donc, on parle dans un couple hétérosexuel. Donc, il y avait l'homme aussi. Et ça, je sais pas, ça me fait tilt. Alors. Peut-être que c'est à côté de la plaque, mais tu vois, je me suis rendu compte, par exemple, pour mon premier accouchement, donc ma fille, qui avait 18 mois à cette période-là, j'avais demandé à mon mec de me dire non si je demandais la péri, parce que je voulais accoucher sans péri pour mes deux enfants. Ma fille, ça l'a pas fait, et mon fils, j'ai accouché à la maison après. Mais je l'aurais pas fait sans mon mec, d'ailleurs. Mais bref, et du coup, j'avais dit à mon mec de me dire, bah si je demande la péri, tu me dis non. Et je suis partie du principe que c'était son rôle, tu vois. Enfin, il était là pour ça. Il fallait qu'il me suive dans mon projet d'accoucher sans péri. Fallait qu'il. C'était son rôle, quoi. C'est moi j'accouchais, lui il gérait toute la partie où il devait être là, le pilier, machin et tout. Sauf que j'avais quand même oublié dans l'histoire que mon mec, il ne sait pas dire non. C'est-à-dire que ça fait pas partie de ses capacités. Peut-être un peu plus aujourd'hui parce qu'il a appris à poser ses limites. Mais j'ai demandé un truc à mon mec par principe. Parce qu'on disait sur Instagram que l'homme il devait être là pour ça, pour telle ou telle chose dans l'accouchement. En gros, j'étais sur des principes en oubliant lui ses capacités et ses limites. Et du coup, bah c'est quelque chose que je partage aussi. Dans les parcours de fertilité, c'est pareil. Tu peux pas. Souvent les nanas elles me disent oui, mon mec il est pas assez à l'écoute, il fait pas assez ça, il est pas assez là. Quand je lui parle de ça, il me répond à côté de la plaque. Mais est-ce que du coup je pose la question, est-ce que du coup tu lui demandes des choses qu'il est en capacité de faire là aujourd'hui à l'instant T, et puis peut-être qu'il ne sera jamais en capacité de faire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui t'apportent sur lesquelles tu peux te reposer sur lui? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est demander.
Oui, je vois bien.
Voilà, c'est être c'est, dans l'attente que de quelque chose.
C'est presque un presque sexiste en fait dans l'autre sens. C'est peut-être pas le bon mot, mais. J'ai pas le mot qui me vient. Alors c'est probablement pas sexiste, mais c'est l'homme, il est censé être fort, mais il a aussi à ce moment-là ses gestions, devenir papa, des enjeux et puis la compétence. Tout le monde n'est pas
voilà, c'est ça,
accompagnant,
la compétence,
ouais. Coach, machin. Ouais. Tu vois,
Donc c'est un des sujets centraux de mes accompagnements quand on travaille sur le couple, c'est d'être dans l'attente de l'autre, des choses qu'il est en capacité de faire. Et si t'as besoin de certaines choses que lui il est pas en capacité de te donner, ben c'est pas grave, tu vas aller chercher ailleurs en fait. Pas avec un autre mec, hein, mais genre avec une personne qui tu sais sera en capacité de répondre à ce besoin là à ce moment là quoi.
Ouais. Ah c'est des moi le couple c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup au-delà de la périnatale, mais souvent les problèmes viennent de ça, ils viennent des attentes fortes qu'on met sur l'autre.
Ouais, c'est ça.
Et donc et des attentes souvent impossibles, ou alors qu'on ne connaît même pas. C'est le pire, c'est les attentes inconscientes. On met une pression invisible parce qu'on ne sait pas quelle pression on met sur l'autre, et ça crée des tonnes de conflits. À mon avis, la plupart des problématiques de couple viennent de ça. Ok. Et de, justement, quelle place tu fais? Comme on en a souvent parlé, on m'a souvent défoncé d'ailleurs, sur le féminisme, etc. Moi, je trouve toujours content parce que ça me fait apprendre des trucs et revoir certains points de vue. Mais quelle place tu fais toi au féminisme, à ces valeurs-là, à ce que tu défends, ces idées-là, dans le monde dans le métier de l'hypnose, de l'accompagnement en général, et puis, en général, dans ta vie, est-ce que c'est un truc que tu mets en avant ou pas? Pourquoi? Enfin, tu vois.
J'ai pas l'impression de le mettre en avant tant que ça. Enfin, je pense que ça se voit après dans mes valeurs, mais j'essaye de pas trop le dire parce que je pense que plus on le dit, plus c'est faux. Enfin, je sais pas comment dire. J'essaye d'être plus dans l'intégrer, on va dire. Ça me fait penser à un mot qui me se passe au-dessus. Enfin, ça fait partie du truc féministe, mais genre la sororité, tu vois. Mmh. Genre. Oui, l'autre fois, une nana qui me dit partage ça pour on est entre femmes, sororité et tout. Je suis là, mais sororité de quoi? Enfin, tu vois, c'est pas des mots que je vais utiliser très souvent. J'essaie d'utiliser pas trop de ce vocabulaire-là parce que je préfère intégrer les valeurs et les faire transparaître dans ce que je partage et tout, plutôt que marquer féminisme sur la tête, même si je le suis clairement. Mais je sais pas si ça répond à la question.
Mais oui, voilà, c'est l'idée d'incarner ce à quoi tu crois.
J'essaie plus d'aller vers ça. Alors parfois je dis les choses, mais j'essaie d'incarner plus mes valeurs plutôt que de les affirmer. C'est comme intégrer, c'est un autre sujet, mais intégrer plus ma spiritualité plutôt que dire en parler. Enfin,
mm-hmm. Ok.
La féministe, c'est pareil.
Et tout à l'heure, on va arriver doucement sur la fin du podcast. Tout à l'heure, tu parlais de ton nouveau projet, j'allais dire bébé, mais c'est un biais parce qu'on parle que de ça presque depuis tout à l'heure. Justement plus développer Instagram. Je sais que moi j'aime pas du tout Instagram. Toi c'est plutôt ton truc. Et donc t'as envie d'en parler un petit peu. En quoi c'est important pour toi? Parce que ça n'a rien à voir avec la périnatalité pour le coup, mais ça reste en lien avec ton métier de former des professionnels.
En fait, ça n'a pas à voir avec la périnatalité, mais ça a à voir avec les personnes que j'accompagne. Parce qu'aujourd'hui, même si on a parlé aujourd'hui beaucoup des séances individuelles, 99% de mon travail, c'est accompagner les pros dans la formation hypnose et fertilité. Et du coup, bah, mon public aujourd'hui, c'est surtout des femmes entrepreneurs accompagnantes, j'aime mieux accompagnantes, que ce soit des doulas, des hypnos, des sophros, des psychologues aussi. Et le réseau principal par lequel je m'adresse à elle, c'est Instagram. Moi, Instagram, c'est genre, j'adore, j'y suis depuis que ça a été créé, je pense. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer de nouveau? Parce que j'avais envie de mettre un petit peu de nouveauté dans ce que je fais aujourd'hui, même si je continue la formation hypnose et fertilité. Mais voilà, j'avais envie d'un nouvelle chose. J'aurais pu faire accompagner l'accouchement, la grossesse, c'est du sujet que je maîtrise et que j'aurais très bien pu faire, sauf que ça me faisait pas trop vibrer. Il y a des nanas qui le font bien, mieux que moi d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, il y a Insta, on vient souvent vers moi pour me poser des questions sur Instagram. Moi, c'est un sujet, en plus de le maîtriser, ça me passionne. Et du coup, j'écoute beaucoup de choses autour de ça. J'ai fait beaucoup de formations sur ce sujet-là. Même si je suis pas coach Instagram ou dicté comme ça, j'ai quand même une autorité là-dessus, je l'ai dit, et aussi des connaissances. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas accompagner les accompagnantes, justement, sur qui ont envie de développer leur compte Instagram, qui ont envie de toucher leur cible, leurs clients et leurs clientes sur Instagram, les accompagner, parce que je vois des personnes qui essayent, mais qui maîtrisent pas les rouages d'Instagram, tu vois. Et aussi, il y a un autre sujet qui m'a fait me lancer là-dedans, c'est l'éthique. Encore une fois, c'est mon fil rouge, je pense. Et que parfois, je vois des choses, des accompagnants qui font des choses sur les réseaux qui me rendent tarée, tu vois. Parler de leur séance alors qu'elle vient juste de se passer en story. Faire des choses qui sont pas éthiques. Même si nous, en tant qu'hypno, on n'est pas une profession réglementée, donc on n'a pas une charte à respecter. Il y a quand même des limites à se poser, quoi. Et en fait, les réseaux, ça devient n'importe quoi sur les sujets de fertilité, mais aussi sur plein d'autres sujets. Et du coup, j'ai envie de proposer aux gens de réfléchir autour de ces sujets d'éthique et de dire, je suis libre, mais je peux quand même me mettre des limites dans ce que je partage, dans ce que je dis de mes séances et de mes accompagnés, dans ce que je propose aussi sur les réseaux, dans ce que je promets. Et j'ai envie aussi de tourner la formation autour de ça, de reprendre les techniques. Ce sera un peu le même le squelette que hypnose et fertilité, hein, c'est de comprendre d'abord comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et tout, et après de réfléchir à quelle posture je veux prendre sur les réseaux, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux qu'on pense de moi, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi. Et quelles limites je me pose pour respecter les gens que j'accompagne. Et puis après, des tous les tips qu'on peut avoir pour faire du contenu de qualité.
Ouais. On sent ta couleur, en fait, ton énergie, l'éthique, machin, là. Faire les choses de façon éthique, bien, qui est là depuis le début, en fait. Ça revient un peu à tout ce qu'on disait au début. C'est souvent les gens, ils cherchent leur voie, leur mission, le truc où ils vont aller, alors que je pense que c'est déjà là, tu vois. Et parfois, en explorant son passé, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait vibrer, toi, c'est beaucoup dans... Tu réagis un peu comme moi, en mode anti, tu vois. Alors là, on est très... Tu réagis parce qu'il y a des trucs qui t'énervent, et c'est aussi, je pense, un levier important. Alors, tout le monde fonctionne pas comme ça, mais ça reste un levier intéressant. Et le mot éthique, Instagram éthique, hop, le LCNR, merci, appelez-moi.
Non, mais j'ai déjà le titre, je pense, mais ce sera dans le sous-titre, il y a le mot éthique, hein, c'est sûr. Dans le titre, je sais pas, j'ai eu l'idée la semaine dernière. Mais tu vois, aussi grâce à toi, en discutant avec toi, tu vois que voilà, j'aime bien discuter avec toi et tout, et on parlait de ça.
Et tu étais parti sur un peu d'autres choses. Pour moi, la clé, c'est, je crois que c'est ce que je t'avais dit, c'est qu'est-ce que les gens te demandent. Là où on doit aller, c'est souvent comment tu fais pour. Et si t'as plein de gens qui te demandent comment tu fais pour développer ton Instagram, l'autoroute est ouverte, parce que c'est-à-dire que t'as déjà des clients, t'as déjà une audience, t'as des gens qui s'intéressent à son truc. Et avant de terminer, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais sur ce sujet-là, mais en général, c'est que là, je vois beaucoup de spécialisés en fertilité, tu vois, même des formations, des trucs comme ça. Et donc, il y a un peu un effet comme en hypnose. C'est de loin, c'est une impression de loin, parce que moi, c'est pas forcément mon sujet, mais ça, c'est un peu comme les formations d'hypnose qui forment de plus en plus de monde. Et puis, il y a 10 ans, on était 2 dans un pâté de maison. Maintenant, on est 50. Donc, comment tu vois ça, toi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est lié un peu à ce que tu disais, c'est un créneau où il y a de l'argent parce qu'il y a de la souffrance. Et donc, les gens vont s'engouffrer là-dedans. C'est surtout les femmes qui vont là-dedans, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quel est ton point de vue là-dessus, de toi, comme formatrice, comme femme, comme accompagnante?
C'est-à-dire par rapport aux autres personnes qui s'installent dans le créneau?
Ouais, en fait, ça devient un créneau qui se développe beaucoup, avec tous les enjeux que ça peut représenter, quoi.
Moi, ce qui est difficile pour moi, ça m'émeut, mais c'est parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui s'installent sur ces sujets-là en tant qu'accompagnante, en formation, hypnose et fertilité. Je crois que je suis la seule à lier les deux pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres un jour, et tant mieux. Mais c'est par rapport aux gens qui s'installent sur ce sujet-là, même pas que en hypnose, hein, sur d'autres sujets, c'est qu'il y en a beaucoup, et que moi, ça me rend dingue parce que je vois des trucs qui me heurte, et c'est même difficile, c'est même très difficile pour moi, à tel point que le fait de prendre un autre créneau avec Instagram et tout, ça me fait respirer, quoi. Je vais pouvoir faire autre chose que baigner là-dedans et voir tous les jours des trucs qui me dérangent dans mes valeurs et donc lesquels je ne peux pas forcément lutter, tu vois. Et après, je me dis, avec la formation et autour de moi, j'ai quand même des thérapeutes, des accompagnants qui font des trucs extraordinaires et super chouettes, et je veux pas non plus dire que je suis la seule à faire les choses bien, pas du tout. Mais il y a quand même des grosses dérives. Il y a quand même des grosses dérives sur les sujets de fertilité et d'accompagner la fertilité, et moi, j'ai du mal à le gérer émotionnellement. Donc j'ai envie de continuer à faire ma formation dans mon coin et avec les gens qui ont envie de travailler avec moi et qui t'appelaient, mais aussi d'avoir une autre casquette et d'aller sur un autre sujet un peu plus funky, un peu plus léger. Ça me fait du bien.
Voilà. Ouais, je pense que moi, c'est un des trucs qui fait que je me suis un peu éloigné des réseaux sociaux, c'est que j'en avais marre d'être en colère. Tu vois? Trucs, ça m'énerve. Je me dis, attends, ouais. Et puis, en plus, quand tu connais un peu le milieu, tu connais les gens, tu vois la différence entre ce qu'ils publient, ce qu'ils sont, leur expérience, leur formation, et puis on perçoit des trucs que d'autres qui débutent peut-être perçoivent moins, et bon, ça, des trucs qui faisaient bondir ma chaise, et donc ça, c'est un des trucs qui fait que j'ai pris de la distance, et que, parce que c'est
pas facile à gérer, ça.
C'est dur à gérer, dans parce que derrière, il y a des valeurs importantes, tu vois, d'éthique, où on met les mots qu'on veut dessus. Évidemment, comme tu dis, je pense pas que c'est ce qui s'entend dans le podcast, que tu serais la seule à faire d'éthique, mais loin de là, hein. Mais il y a plein de gens qui font des trucs bien, mais c'est, les gens qui font les trucs de manière pas éthique et qui profitent de la souffrance, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Moi, dans le milieu de la spiritualité, du développement personnel, c'est un truc contre lequel je lutte aussi beaucoup, qu'on retrouve dans ton domaine. Hein. C'est les mêmes luttes, en fait. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, d'inviter des gens qui ont une vision qui est chouette. Quoi. On a pas mal.
C'est un vrai sujet pour moi.
Hein. Je pensais pas que le podcast partirait dans ce sens-là, mais bon, pourquoi pas. C'est très bien. Une question que je pose dans tous les podcasts, c'est celle de Tim Ferriss, là. Si t'avais un gigantesque panneau d'affichage sur lequel tu pouvais écrire n'importe quoi, dire quelque chose à tout le monde, n'importe qui, il y aurait écrit quoi dessus et pourquoi?
Il est très dur cette question. J'espère que tu coupes le blanc, mais je crois pas. En fait, c'est de la triche parce que j'ai déjà entendu deux épisodes de ton podcast, donc je savais que t'allais me la poser, mais quand j'ai pas trouvé de réponse. Et en plus, c'est un truc dont on n'a pas du tout parlé. Mais je pense que je mettrais plutôt un message par rapport à une autre lutte, mais qui est plus interne et qui est plus en sourdine parce que j'ai pas l'énergie pour et ça me touche trop émotionnellement. Mais par rapport à aux problématiques de grossophobie qu'on peut voir dans le monde, voilà. Et je mettrais peut-être plus un message en lien avec ça. Mais ça, j'aurais trop de trucs à dire, donc il y aurait peut-être pas assez de place. Il faudrait que je trouve un truc, un QR code, tu vois. Vers une vidéo, je mettrai un QR code qui emmène les gens vers.
Oui, mais c'est de la triche, t'as pas le droit de mettre
un contenu pour qui. T'as pas dit, c'était pas dans les règles.
C'est vrai. Ce que j'aime bien cette question, parce que justement, elle reconnecte à des choses qui sont importantes et puis qui parfois, j'en parlais de ça dans un autre podcast qui est pas diffusé encore à l'époque où nous on fait ce podcast. C'est presque ce panneau-là, c'est presque le titre d'un livre ou d'un truc important ou pour certaines personnes d'un angle, peut-être d'un positionnement. Tu vois, moi, dans le podcast, c'était avec Bérangère, je disais, moi, je mettrais rien n'est grave, tout est important. Et pour expliquer ça,
ma phrase, c'est tout est possible. Celle qui me suit depuis le début, c'est voilà, si c'est ça la question, j'écrirai. Bah oui, c'est sûr. Merci de ton aide. Donc tu pourras enlever le truc d'avant.
Non, parce que c'est un sujet important.
C'est un sujet important, mais voilà, c'est ce qui m'est venu. Et pourtant, j'ose pas trop en parler de ces choses, ces sujets. C'est très sensible pour moi. Mais sinon, si je devais mettre un titre de quelque chose et sur lequel je peux en parler des heures, parce qu'il y a plein de notions qui en découlent, c'est moi ce que j'aime dire, c'est tout est possible. Mais c'est à double sens, on est d'accord. Mais voilà. Et moi, c'est quelque chose, je me souviens, le jour où j'ai décidé de quitter le métier d'infirmière, là, j'avais un ordinateur sur lequel je travaillais, et j'avais mis ça en fond d'écran. C'était marqué, tout est possible. Et depuis ce jour-là, je crois que c'est ce qui m'a tenu à n'importe quel moment de mon activité, de ma vie pro, ma vie perso, quoi. Tout est possible.
Ça résume bien l'histoire du podcast et tout ce dont on a parlé,
hein. Ouais.
Cette question, elle est intéressante pour ceux qui nous écoutent, mais peut-être pour toi aussi. Elle résume une philosophie de vie. Alors, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'aider les gens à développer leur philosophie. C'est la méta-pensée, tu vois, qui tient souvent une phrase courte, c'est une devise, tu vois, et qui est souvent mettre de la conscience dessus, parce que des fois, la philosophie, elle est pas incarnée. C'est quelque chose qu'on aimerait, les gens vont mettre quelque chose qu'ils aimeraient vivre sur le panneau, tu vois. Et des fois, c'est quelque chose qui est incarné et je trouve que ça reconnecte, ça permet de faire du lien avec tout ce qu'on fait, les activités, le positionnement, la vie, les messages qu'on veut faire passer, etc. Tu vois, j'imagine que dans la fertilité, c'est aussi un message, même si comme tu dis, on peut expliquer, tout est possible, mais tout n'est pas possible non plus. Enfin bref,
mais oui.
Ce que je... Mais ça reste mais cette
c'est,
phrase-là.
C'est thèse, antithèse, synthèse. Hein.
Cette phrase-là, il te faudrait probablement des centaines de réels pour expliquer le sens qu'elle a dans tous les contextes et tout le féminisme, la fertilité, la grossophobie, enfin tous les sujets qui t'intéressent, le couple, la vie, la mère, les enfants, l'éducation. Mmh. Et donc, je trouve que ça ouvre des portes sympas, puis ça permet en une phrase de savoir qui on a en face de soi. Mmh. Tout est possible, Chloé. C'est chouette.
C'est marqué, ouais.
Bref, on va bientôt terminer ce podcast-là. Tu veux dire un mot pour finir à ceux qui nous écoutent, à ceux qui auraient envie de se lancer, ceux qui s'intéressent à devenir accompagnant, accompagnante, la fertilité. Un message sympa, rouge. Tout est possible, c'est déjà un message. Premier truc qui est là.
Oui, bah, tout est possible. Non, mais ouais, tout est possible, c'est vrai, tout est possible. Tout est possible. Après, ce que je mettrais en sous-titre, en revanche, il faut se donner les moyens. Mm. Voilà. C'est que, même si y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, moins de chance que d'autres, ça c'est sûr, ça, on est d'accord qu'il y a un décalage là-dessus, dans la société en général. Mais je dis pas qu'il faut se donner, enfin, qu'on doit se donner les moyens, mais avec les moyens qu'on a, avec les moyens du bord, on peut faire plein de choses. Tout est possible et avec les moyens du bord, on peut faire plein de choses. Voilà.
C'est chouette que tu abordes ça parce que j'ai pas trop osé le faire au début parce que je trouvais que tu rabaisser c'est peut-être pas bon mot, mais tu rabaissais un peu le en disant oui j'ai un peu de chance au début etc. Mais je pense que les gens ne voient pas la quantité de travail parce que moi je te connais bien.
Alors, oui,
on parle souvent,
je
fais des coups de main tout ça et la quantité de travail et les efforts que ça a demandé. Parce que des fois, on oublie une fois qu'on les a fait. Quand on y est, on dit, ah, putain, c'est galère, j'y arrive pas. Une fois qu'on les a fait quelques années après, ce que je dis souvent, c'est que dans une phrase courte, comme moi, je dis aux gens, les gens disent, ah oui, mais toi, tu t'es lancé, t'as osé. J'ai mis 8 ans à quitter l'hypnose. Sauf que cette phrase-là qui tient en, je résume 8 ans de ma vie de questionnement en une phrase, tu vois, et donc elle peut être balancée un peu du revers de la main. Donc c'était pas facile puisque la décision a pris quand même du temps. Et toi, je te connais, t'es quelqu'un qui bosse beaucoup, t'as travaillé la com, le marketing, tu t'es fait coacher, former. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup beaucoup de travail derrière la réussite d'hypnose et fertilité et de tout ce que tu fais. Et je pense que c'est bien aussi de le tout est
j'ai
possible
eu des
et
coups
bien.
De pouce, qui sont...
Oui, mais t'es allé les chercher, c'est ça que je veux dire. C'est
j'ai allé les chercher, puis j'aurais pu les refuser, quoi. Enfin voilà. Mais c'est vrai que j'ai jamais autant bossé de ma vie.
Oui,
pourtant, je bosse moins d'heures, mais dans les heures que je travaille, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, quoi. Enfin,
et je pense
de quantité de travail, j'ai jamais autant travaillé.
C'est quelque chose qui est souvent un peu négligé, parce que de loin, sur Insta, sur machin, comme tu dis, là, tu fais un réel par jour pendant 30 jours, bah, il faut que ton mari soit là, le pilier, la gestion émotionnelle, la quantité de travail, la charge mentale que ça représente. C'est des trucs qu'on voit pas, forcément. Et, il faut que c'est bien de pas en faire trop d'humilité, tu vois. Parce que les gens après se disent, c'est facile,
aussi,
tu vois. Non, c'est pas facile.
Il y a aussi
facile.
Un truc que je me rends pas compte.
Oui.
Bah non, c'est pas facile. Et je me rends pas compte que je travaille parfois. Enfin, tu sais, j'ai pas l'impression de. Il y a aussi le fait que c'est vrai, j'aime ce que je fais. Enfin, et du coup, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, mais j'ai jamais autant kiffé travailler de ma vie. Enfin, tu vois, moi, je me lève le matin, le jour où j'ai ma journée de travail devant moi, je kiffe de fou, quoi. Enfin, je suis refaite. Alors oui, il y a des moments un peu plus de creux, de machin et tout, mais je fais quelque chose que je kiffe vraiment, vraiment profondément. Et ça, ça change tout dans l'énergie que je mets dedans. Et oui, je travaille beaucoup, mais c'est moins difficile que quand je me levais à 5 heures du matin pour être infirmière, quoi.
Mmh. Voilà. Ouais, puis il y a ce que t'as accompli aujourd'hui que tu kiffes, mais le chemin pour arriver... Et pas toujours évident, et pas toujours facile. Et je trouve que des fois, on l'oublie un peu, parce qu'on balaye, quand tu dis, quand j'ai commencé il y a 3-4 ans, dans ces 3-4 ans, il s'est passé un paquet de trucs que t'as partagé là, d'ailleurs. Je te remercie de la sincérité, de l'authenticité. C'était vraiment sympa. Mmh. Bref, toujours un plaisir de discuter avec toi. On pourrait parler plein d'autres sujets.
Et je pense que oui.
Et pas être d'accord sur
tu
plein de trucs.
Tu me réinviteras.
Être d'accord sur plein d'autres.
Voilà, on était soft, je trouve. On s'est pas engueulé.
On n'a pas parlé féminisme, mais on s'engueule pas tant que ça. On s'engueule pas tant que ça.
Non, mais c'est pas qu'on s'engueule, c'est que
on discute. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi. Je vais me permettre de te faire des compliments. Que t'as cette honnêteté, cette sincérité. que je suis toujours allé chercher et que je me souviens d'une co-vision où s'était passé un truc, après on avait discuté longtemps, ça m'avait permis de réfléchir, tu fais partie des personnes qui me font évoluer, bouger, et pour ça, je te remercie.
Tu vas me faire pleurer, vraiment.
Sur ce moment émotionnel.
Ouais.
On fait des bisous à tous. Merci Chloé d'avoir été là.
Ouais, salut.
Merci à tous d'avoir
été. Merci pour ton invitation.
Bisous.
Ouais. Salut Laurent.